Le journal, Sébastien Legenie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une dans ce journal, le torchon brûle entre Paris et Rome. Journée décisive aujourd'hui dans le dossier très sensible du rachat des chantiers navals de Saint-Nazaire. La France donne jusqu'à ce soir aux Italiens pour accepter ou non l'accord 50-50 proposé par Paris. Explication dans un instant. Les incendies dans le sud-est de la France, ça s'améliore nettement à Bormes-les-Mimosas, où les flammes sont presque sous contrôle grâce à un vent qui faiblit. 1200 personnes restent malgré tout logées dans des gymnases. Nous serons en direct de la station balnéaire. Les incendies en France, pourquoi, comment, combien? Plateau spécial à 8h20, Pierre.
Avec Michel Ventier dans les studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence, chercheur à l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, spécialiste en écologie forestière. Et puis Alain Lesturger, il sera avec nous, il est directeur de la Fédération Nationale des Communes Forestières de France. Vous pourrez interroger ces deux invités dans Interactive à partir de 9h-20, 01 45 24 7000. Le standard est en fonction dès maintenant.
Au sommaire également, des Français qui achètent toujours plus dans les grandes villes. Un accord enfin trouvé entre François Fillon et les Républicains autour du magot de la campagne présidentielle. À l'étranger, l'appel au secours de la Croix-Rouge au Yémen qui alerte sur une épidémie de choléra hors de contrôle. Et enfin, le dernier album très disco des Canadiens d'Arcade Fire en exclusivité sur Inter. Rendez-vous en fin de journal.
France Inter.
Paris bluffe-t-il ? La question mérite d'être posée dans le dossier brûlant des chantiers navals de Saint-Nazaire. Le gouvernement français a mis la pression maximale hier sur Rome, la France qui menace en effet de nationaliser les chantiers STX si l'Italie n'accepte pas le nouveau deal proposé par l'Élysée, une répartition des parts à égalité entre les deux pays, un 50-50 dont les autorités italiennes ne veulent pas. Rome a jusqu'à ce soir minuit pour répondre aux injonctions de Paris. D'ici là, suspense, Bruce de Galzin.
Coup de poker menteur ou décision assumée de nationaliser les chantiers à Bercy ? Comme à l'Elysée, on laisse entendre que les négociations se poursuivent tout de même, mais qu'une décision sera prise rapidement. Bercy, qui semblait faiblir sur le dossier ces derniers temps, estime Bruno Retailleau, le président de la région des Pays de la Loire où sont situés les chantiers. Lui aussi appelle à nationaliser un temps STX pour éviter que les Italiens mettent la main sur cet actif stratégique. Le ton se durcit donc, car l'inquiétude partagée par certains syndicats est que les chantiers italiens à Trieste soient favorisés au détriment de Saint-Nazaire si un jour la production décline. Force ouvrière n'a pas confiance dans Fincantieri, le principal concurrent de STX, qui les a bernés, dit le syndicat, en tentant d'imposer un fonds italien afin d'obtenir la majorité au capital. FO et la région appellent à nationaliser les chantiers, mais la région, comme l'État, veulent ensuite un industriel pour piloter l'entreprise. D'autres syndicats s'inquiètent de voir leur avenir encore en suspens, pour un certain temps.
Bruce de Galzin, chef du service économie de France Inter. Pour tenter d'aplanir les différends, les ministres des Affaires européennes des deux pays doivent se retrouver à Rome ce matin. Nathalie Loiseau pour la France, Sandro Gozzi pour l'Italie. L'Italie qui, à quelques heures de l'ultimatum français, campe malgré tout sur ses positions. Écoutez Sandro Gozzi au micro de Mathilde Imberti.
Non, la position de l'Italie est claire. Il y a un accord qui prévoit un actionnaire majoritaire, qui prévoit un droit de blocage pour le gouvernement français. Et nous pensons que c'est la bonne voie. Pourquoi oui à 66% des Coréens et non aux Italiens, aux Européens, au moment où on doit développer une industrie européenne de la défense? Surtout, l'Italie est un pays très ouvert envers la France. Quand EDF a acheté Edison, personne n'a bloqué EDF. La seule chose qu'on a demandé à EDF, assurez-nous que Edison, qui est un pôle de l'énergie, va rester en tant que tel en Italie. Ça s'est passé comme ça et nous voudrions avoir le même traitement quand il s'agit des grandes entreprises italiennes en France. Ce n'est pas toujours le cas et c'est regrettable parce que nous devons développer des grands pôles industriels européens. Et qui, sinon mieux, des Italiens, des Français pour les faire.
Le ministre italien des Affaires européennes, interrogé par notre correspondante en Italie.
8h04, le journal Sébastien Legenie. Sébastien, sur le front des incendies, la situation semble s'améliorer ce matin autour de Bormes-les-Mimosas.
Oui, les principaux foyers sont sur le point d'être maîtrisés. C'est un feu d'une très grande virulence qui a touché hier la station balnéaire. Plus de 1500 hectares brûlés en quelques heures, 12 000 évacuations. Et pour des centaines de personnes, c'est la galère qui continue. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Alors cette nuit, 1200 personnes ont encore été hébergées par la commune.
Oui, à l'intérieur du gymnase Pierre Quinon de Bormes où je me trouve, les sinistrés sont déjà tous réveillés. C'est l'heure du petit déjeuner, du café avec au menu cookies, madeleines, pommes, des serviettes et du gel douche aussi sont distribués pour faire la toilette. Xavier a été évacué d'un camping, c'est sa deuxième nuit ici. Il a des petits yeux, mais il sourit.
Bon, ça va, on a dormi cette nuit, donc ça va impeccable. On a à peu près dormi 6 heures, donc c'est bien. Donc maintenant, on va attendre la suite des événements.
Vous avez dormi sur des matelas par terre, là ?
Non, des petits lits de camp, c'est impeccable. Confortable et tout, avec des couvertures, des drones, donc tout fourni hier soir, donc très très bien.
C'est quoi la suite, là ?
Enfin, on attend des nouvelles pour voir quand est-ce qu'on peut retourner au camping, surtout.
Garder le moral.
Oh bah, il faut, de toute manière, on n'a pas le choix, hein. On est en vacances.
Ici, les sinistrés sont un peu plus optimistes ce matin, car la situation s'améliore. Le feu ne progresse plus, plus aucune habitation n'est menacée. En tout, 1500 hectares ont été brûlés, mais il reste encore quelques points chauds qui peuvent repartir à tout moment. Les pompiers préfèrent jouer la sécurité. Pour l'instant, interdiction donc pour les vacanciers évacués de regagner leur camping.
Gaël Joly, en direct de Bormes-les-Mimosas avec les moyens techniques d'Éric Audra. Toujours dans le Var, les flammes sont reparties hier autour de la Croix-Valmer, près de Saint-Tropez et aux environs d'Artigues. Dans le Vaucluse, l'incendie du massif du Luberon est maintenant circonscrit. En Haute-Corse également, où près de 2200 hectares de maquis ont disparu. Dans les Bouches-du-Rhône, enfin, le feu est stabilisé autour du village de Carreau. Les Bouches-du-Rhône, où plusieurs personnes ont été interpellées, deux personnes en garde à vue, sont notamment soupçonnées d'être à l'origine de l'incendie de la petite ville de Peigny. Ils faisaient des travaux dans leur jardin quand le feu a pris par imprudence, selon les enquêteurs. Au total, en trois jours, ce sont 7000 hectares qui sont partis en fumée. L'an dernier, ce sont 16 000 hectares sur toute l'année qui avaient brûlé. Objectif 100 millions de touristes en 2020. C'est la feuille de route que s'est fixée hier le gouvernement lors d'un conseil interministériel du tourisme avec deux mesures concrètes d'ici là. Une délivrance de visa plus rapide, notamment pour les Russes, et un temps d'attente réduit dans les aéroports. Le gendarme de la Bourse a voulu frapper fort hier. L'autorité des marchés financiers a infligé une amende record aux gestionnaires d'actifs Natixis. 35 millions d'euros du jamais vu. Natixis est sanctionné pour avoir trompé ses clients en dépassant les frais de gestion maximum autorisés par la loi. En économie, toujours, cette information France Inter. Jamais les Français n'ont autant acheté dans ou autour des grandes villes. Résultat d'une enquête Empruntis que nous dévoile Maxime Deps en exclusivité.
Mieux vaut vivre quelque part où il y a tout qu'au milieu de nulle part. Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, là où les Français veulent habiter en majorité, c'est là d'abord où se trouve l'emploi et là où les déplacements sont facilités. Un réseau de transport urbain qui fonctionne, c'est ça aussi avant tout qui détermine l'achat pour Cécile Roquelaure, chargée de l'étude chez Empruntis.
On va aller chercher le juste équilibre entre qualité de vie, mais aussi perspective économique favorable pour vivre bien au quotidien, même si on n'a pas la qualité de vie qu'on espérait.
Et ce besoin de se rapprocher des grandes villes concerne tous les âges. Même les retraités, jusqu'ici tentés par le bord de mer, commencent à lorgner davantage sur les métropoles. Bref, tout le monde se dirige vers les mêmes endroits. Plus d'un quart des intentions d'acheter se porte ainsi vers l'Île-de-France, 10% vers la région Rhône-Alpes, ce qui aura inéluctablement des conséquences sur les prix.
Clairement, les zones tendues d'aujourd'hui seront encore des zones tendues demain, voire plus, puisque les intentions des Français se concentrent. Donc on va avoir un accroissement des tensions dans des zones déjà extrêmement tendues, avec un manque de logements disponibles et une demande en forte croissance.
La demande qui augmente fortement d'un côté et qui chute drastiquement de l'autre, en parallèle des grosses métropoles, de nombreuses zones se vident, selon l'étude, comme la Picardie, le Centre et le Limousin, en tête très largement des régions dont les ménages disent le plus vouloir partir.
Maxime Deps du service économie de France Inter, acheté en ville plutôt qu'à la campagne. Une enquête à retrouver sur franceinter.fr. Les députés ont voté cette nuit l'une des mesures phares du projet de loi sur la moralisation de la vie publique. L'interdiction d'employer un membre de sa famille pour les membres du gouvernement. Interdiction qui devrait être votée aussi également pour les députés et les élus locaux. La suite législative de l'affaire Fillon. François Fillon qui a justement consenti à rendre un peu d'argent au parti Les Républicains. Pendant sa campagne, c'est sur le compte de son micro-parti Force Républicaine que les dons des sympathisants avaient été récoltés, 1 900 000 euros, un petit trésor de guerre que revendiquait aussi le parti LR. Un accord a finalement été trouvé hier entre les deux partis. Estelle Schmitt.
1 million pour le parti, 900 000 euros pour Force républicaine. François Fillon est loin d'être perdant, même s'il nous a fait perdre l'élection, glisse amer un cadre LR qui estime qu'il aurait dû rendre tous les dons parce qu'il les a perçus en tant que candidat Les Républicains à la présidentielle. Du côté de Force républicaine, on répétait au contraire que l'argent était destiné à aider François Fillon dans ses combats politiques et que rien ne le forçait à le rendre. Plus de 3 mois après la défaite, Daniel Fasquelle, trésorier de LR, retrouve le sourire. Ce million d'euros récupéré va aider à rembourser la dette du mouvement qui est de 55 millions d'euros et il correspond selon lui à ce que le parti aurait dû toucher pendant la campagne si François Fillon n'avait pas appelé ses sympathisants à verser l'argent directement à son micro-parti. Mais Daniel Fasquelle le reconnaît, certains dons n'auraient pas eu lieu si François Fillon n'avait pas été candidat. Chez les fillonistes aussi, on joue l'apaisement. Il faut tourner cette page, assure une députée. L'objectif pour elle, c'est la reconstruction de la droite. Une famille aujourd'hui très divisée, mais également déboussolé face à la politique d'Emmanuel Macron.
Estelle Schmitt du service politique de France Inter.
8h11 à l'étranger, les Vénézuéliens appelés à donner le tout pour le tout.
Oui, deuxième journée consécutive aujourd'hui de grève générale. Une grève très suivie hier, des ruelles vides, des commerces fermés, mais aussi de graves affrontements à Caracas. 2 personnes sont mortes depuis hier, dont un mineur de 16 ans dans des heurts avec la police, portant à plus de 100 le nombre de victimes depuis 4 mois. À Jérusalem, un nouveau recul des autorités israéliennes qui, après le démontage des détecteurs de métaux, ont aussi retiré les caméras de surveillance installées autour de l'esplanade des mosquées. Benjamin Netanyahou lui a par ailleurs menacé d'expulser de Jérusalem le bureau d'Al Jazeera, la chaîne de télé qatari considérée comme trop pro-palestinienne. Au Yémen, l'épidémie de choléra continue de faire des ravages, une épidémie qui sévit depuis des mois dans ce pays dévasté par la guerre civile. 400 000 personnes infectées, 1 800 morts. Le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, tire la sonnette d'alarme. Élise Delève.
Depuis le mois de mai, 27 personnes meurent chaque jour du choléra au Yémen. La maladie s'est propagée car les Yéménites sont épuisés, affaiblis par plus de 2 ans de conflit. 1 habitant sur 2 ne mange pas à sa faim et 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë selon l'ONU. Et quand ces populations vulnérables veulent se tourner vers les hôpitaux ou les centres humanitaires, difficile de trouver une réponse immédiate. Robert Mardini, chef régional du CICR au Moyen-Orient.
Le Yémen n'a plus d'eau potable courante, n'a plus de l'électricité qui fait fonctionner les stations de traitement et de pompage d'eau, qui ne fait pas fonctionner les hôpitaux et ces stations de pompage. Dans toutes les villes, la poubelle s'accumule dans les rues, la poubelle s'accumule autour des hôpitaux. La poubelle est évidemment un vecteur prodigieux pour la propagation de la maladie. À ça, on rajoute que seulement 30% de médicaments aujourd'hui et de matériel médical entrent au Yémen. Donc voilà, tous ces facteurs sont des facteurs aggravants d'une situation qui continue à se détériorer.
La Croix-Rouge internationale demande aux parties en guerre au Yémen de respecter les conventions de Genève. Cela veut dire faciliter le travail des humanitaires, le transport des médicaments et ne pas viser les hôpitaux et les ambulances.
Élise Delève, c'est un petit événement dans le monde de la musique pop-rock. Le dernier album des Américano-Canadiens d'Arcade Fire, Everything Now, le 5e album de ce groupe phare de la scène indépendante, disponible seulement à partir de demain, mais que France Inter vous fait découvrir en exclusivité. Journée spéciale Arcade Fire sur l'antenne, Mathieu Culeron a rencontré le chanteur pour l'occasion.
Everything Now a été réalisé entièrement en dehors de Montréal, un peu à Paris, mais surtout à la Nouvelle-Orléans dans un contexte très minimaliste, comme l'explique Win Butler, le chanteur d'Arcade Fire.
Le studio qu'on a installé à la Nouvelle-Orléans était minuscule, 30 mètres carrés environ par moment. On était 13 musiciens, plus les ingénieurs du son, dans une pièce plus petite que certaines chambres à Paris.
Une situation qui tranche avec la richesse de la production confiée à Steve Mackey de Pulp et à Thomas Bangalter des Daft Punk, une vraie rencontre artistique pour Win.
Même si leur musique ne sonne pas pareil, on a la même vision de l'art et de la musique.
Everything Now est sous influence Talking Heads, mais explore aussi le disco, les grandes balades et même le reggae version rocksteady, une influence revendiquée.
Pour moi, le reggae est devenu la musique du monde en bien des aspects. Si Bob Marley était en vie, il jouerait devant 300 000 personnes. C'est une musique essentielle pour moi.
Le dernier album d'Arcade Fire, un disque plus dense qui vient consolider l'immense piédestal que s'est construit le collectif en une dizaine d'années.
Mathieu Culeron avec le nouvel album d'Arcade Fire à découvrir sur Inter toute la journée. Quelques mots de sport. Il s'en est fallu de peu pour que les Bleus quittent l'Euro féminin 2017. Hier, les footballeuses françaises ont finalement arraché leur qualification pour les quarts de finale. Match nul un partout face à la Suisse. Et puis à suivre aujourd'hui au championnat du monde de natation, la finale 100 mètres nage libre messieurs à Budapest pour laquelle le français Mehdi Metella s'est qualifié. On reste dans les torses nus avec cet arrêté municipal de la commune du Gros-du-Roi dans le Gard. Toute personne se promenant en maillot de bain dans la ville sera désormais sanctionnée. 38 euros d'amende pour se balader le ventre à l'air. Les touristes donc à bien se tenir. Leur reportage de Camille Payan.
Rue Michel Rédarès, à une cinquantaine de mètres de la plage, Mado fait les boutiques avec sa femme. Il a tombé la chemise.
Je suis à l'aise parce que je bronze en même temps. On dérange personne, je pense. Peut-être dans un restaurant, à la rigueur, ça pourrait déranger, mais là, on est à quelques pas de la mer. Non, ça dérange franchement pas.
Et si ? Ça dérange certains commerçants, comme Nelly.
Ça circule, les hommes un petit peu bedonnants, enfin bon. Et même pas que torse nu. Des fois avec des maillots de bain très bikini, les fesses à l'air.
Et qu'est-ce que vous leur dites ?
De s'empiler le t-shirt ou de sortir.
La règle est la même quelques mètres plus loin dans la boutique d'Adèle.
Bonjour, s'il vous plaît, regardez. Voilà. Vous voyez ?
Et voilà Guillaume, sans t-shirt, sans polo, prié de faire marche arrière.
On n'est pas non plus tout nu, c'est torse nu, c'est pas... C'est détendu, on est tous en vacances.
En vacances, mais pas sur la plage, d'où viennent Younes et Kamel.
On est mouillé, on a le short mouillé, on va pas mettre notre short mouillé et tout.
Et pourtant, il vaudrait peut-être mieux se rhabiller. 38 euros l'amende.
Ah ouais, ma mère, je vais leur foutre mon t-shirt alors. C'est vrai ?
Oui, c'est vrai, mais rassurez-vous, avant de sortir le carnet, la police municipale fait surtout des rappels à la loi.
Le reportage de Camille Payan, ventre bedonnant, fesses à l'air, rien à voir avec vous hein, Pierre. Et votre légendaire élégance, magnifique chemise à fleurs bleues aujourd'hui Pierre.
Merci, c'était le journal Sébastien Loginino.